Il y a quelques semaines, nous avons commencé à parler du ministère de Jésus. Et nous avons posé la question, qu'est-ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans entre son baptême et sa crucifixion et résurrection? Et nous avons vu qu'au début de son ministère, en Luc chapitre 4, 43, Jésus lui-même dit que la raison qu'il a été envoyé, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ce qu'il va accomplir, bien sûr, par sa mort et par sa résurrection, le moment où il devient le roi victorieux sur la mort et le péché. Mais tout ce qu'il a fait avant ce moment-là aussi annonce ce règne de Dieu, la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et nous avons vu qu'on peut considérer cette annonce sous 2 angles en général. Ce que Jésus fait et ce qu'il enseigne. Ses actes et son enseignement. Et par ses actes, nous avons vu que Jésus construisait un peuple. D'abord, il a construit un peuple. Il a choisi des disciples. Et puis, il a commencé à instaurer un règne qui restaure nos relations les uns avec les autres et notre relation avec Dieu. C'était le message d'il y a 2 semaines. Si vous étiez là, peut-être vous vous en souvenez. Et aujourd'hui, donc, je vais continuer où j'ai terminé avec ce message-là et nous allons voir comment Jésus a annoncé la bonne nouvelle de son règne, non juste par ses actes, mais aussi, bien sûr, par son enseignement. Quand Jésus était devant les foules, qu'est-ce qu'il a dit pour les préparer à participer à son règne? Et comme pour ses actes, on ne peut pas tout voir dans un message. Jésus a beaucoup enseigné et il y a beaucoup de beaux passages dont on pourrait parler. Mais en gros, le passage clé pour comprendre l'enseignement de Jésus, c'est le sermon sur la montagne, bien sûr. Et en effet, c'est ce que nous avons au prochain chapitre dans le livre de Luc. Jésus dit au chapitre 4 qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et puis au chapitre 5, il choisit ses disciples et annonce son règne par ses actes. Et puis au chapitre 6, il explique avec ce serment. Et ce serment sur la montagne, c'est ce qu'on pourrait appeler la loi du Christ. Pour reprendre une phrase de l'apôtre Paul qui se trouve en Galates 6, on ne l'utilise pas trop, parfois, je trouve, parce qu'on aime parler de la grâce quand on parle de Jésus, et avec raison. Mais il ne faut pas oublier que le Nouveau Testament parle de la loi du Christ aussi. Et ce serment sur la montagne résume la loi du Christ. C'est la loi du nouveau roi. C'est la loi de ce royaume, de ce règne. Et donc, avant de lire notre passage, j'aimerais, comme d'habitude, vous poser une question. Et c'est la suivante. À quoi sert la loi de Dieu? Pour quel but existe-t-elle? Ça dépend peut-être de quelle loi on parle, parce que la phrase « la loi de Dieu », ça pourrait signifier plusieurs choses. Mais commençons par la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Et puis on reviendra à l'enseignement de Jésus. À quoi servait-elle la loi de Moïse, Il y a quelques ans, un livre est sorti aux États-Unis qui était intitulé « L'année où j'ai vécu selon la Bible ». C'est une idée intéressante, mais une année, on pourrait parler de vivre toute une vie selon la Bible. Mais ce livre était écrit par un journaliste, c'était un juif non pratiquant. Et ce journaliste avait décidé que ça serait une expérience intéressante, et j'imagine rentable, d'essayer de vivre selon toutes les règles qu'il trouvait dans la Bible, et puis d'en écrire un livre. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette expérience d'un non-croyant avec les Écritures a rendu beaucoup de croyants un peu mal à l'aise. Mais il y avait aussi un certain journaliste chrétien qui a donné ce résumé à ce livre. Il a écrit que les expériences de l'auteur l'ont amené à des résultats qui lui ont apporté la vie, comme observer le sabbat, par exemple, comme être reconnaissant et éviter les malédictions et les commérages. Elles ont aussi apporté de nombreux moments frustrants, comme son incapacité d'éviter à être jaloux ou de se fâcher. Donc, des choses qui amènent la vie et des choses qui auraient amené la vie si seulement il aurait pu les faire. Et en même temps, cette expérience a aussi eu des résultats qui étaient simplement, disons, un peu bizarres, comme celle-ci. Voilà la photo avant et après de cet homme qui a fait cette expérience. Il s'appelle Jacobs. Donc, Monsieur Jacobs, il avait suivi littéralement l'instruction dans l'Ancien Testament que les hommes ne doivent pas couper la barbe. Quelque chose que nous ne faisons pas, évidemment. Mais il y en a ici qui commencent, mais... on ne le fait pas, ça fait partie de l'Ancien Testament, et quand on le voit, ça nous semble peut-être un peu bizarre. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il donné une règle comme ça aux Israélites? Parce que la réponse n'est pas forcément évidente tout de suite, la raison. Qu'est-ce que la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Quelque chose qui donne la vie ou juste une liste de commandements un peu bizarres et sans explication, comme ne pas couper la barbe? Peut-être c'est les deux. À quoi sert la loi de Dieu? Ben, en fait, Dieu lui-même répond à cette question déjà dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Donc écoutez ces versets de Deutéronome chapitre 4. Vous pouvez tourner si vous voulez. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez écouter. Deutéronome chapitre 4. Et pendant que je lis ces versets, essayez d'identifier les buts de la loi selon ce passage. C'est tout au début de la loi de Moïse. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et puis, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ?» Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Alors, pour le peuple d'Israël, suivre la loi de Moïse allait produire deux résultats. D'abord, le peuple aura la vie. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Et puis, deuxièmement, les nations verront cette vie, cette sagesse et cette intelligence. Ils reconnaîtront que l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu comme les leurs. Depuis le début, ce n'était jamais son but. Ses buts ont toujours été d'apporter une vie abondante et de révéler Dieu aux nations. Toujours. Alors, avec cet arrière-plan en tête, revenons au Nouveau Testament. Jésus, le roi, commence à annoncer son règne. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la loi? Quelle loi va-t-il instaurer lui-même et à quel but? Et pour voir cela, nous allons lire la version du sermon sur la montagne qui se trouve en Matthieu 5. Car cette version-là est un peu plus détaillée que celle de Luc. Donc, lisons Matthieu 5, versets 1 à 17. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà la parole de Dieu, de notre Seigneur. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne lisait pas la suite de son enseignement et celui du reste du Nouveau Testament, on pourrait imaginer que ça veut dire que nous devrions tous, les hommes au moins, porter des barbes, comme des juifs dans l'Ancien Testament, et observer la totalité de la loi de Moïse, comme le journaliste. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce que Jésus dit ici veut dire deux choses simples. D'abord, Jésus est venu pour vivre une vie parfaitement conforme à la loi de son peuple, à la loi de Moïse. Il l'accomplit parfaitement. Quelque chose que personne d'autre n'a jamais pu faire. Ce qui veut dire que son sacrifice est valable devant Dieu, parce qu'il était un homme parfait. Et deuxièmement, Jésus enseigne ici que la loi du Christ va avoir précisément les mêmes buts que l'ancienne loi. C'est-à-dire apporter la vie et témoigner de cette vie aux nations. Notons comment ce passage se divise en deux parties. Les versets 1 à 12 décrivent une vie abondante, une vie de bénédiction. Et c'est la promesse de la bénédiction à tous ceux qui vont vivre ce règne de Jésus. Et puis, les versets 13 à 16, c'est notre témoignage. Nous qui vivons selon la loi du Christ, nous qui vivons son règne, nous serons comme une lumière au sommet d'une montagne. Nous serons le sel qui change la saveur de ce monde, si nous ne perdons pas notre saveur. C'est très intéressant et très important comment Jésus, il reprend le livre de Deutéronome pour expliquer sa propre vie. Et il fait exprès. Tous ses auditeurs auraient compris que Jésus était en train de reprendre la loi de Moïse et expliquer les mêmes buts pour la loi du Christ. Et on va considérer donc ces deux buts de la loi de Dieu, du règne de Jésus, la vie et la lumière. D'abord, la vie. Tout au long des Écritures, ce thème est présent. Dieu est la vie, sa parole est la vie. Ce qui veut dire que les lois de Dieu ne sont pas arbitraires et ils ne sont pas choisis par hasard. Les lois de Dieu nous dirigent sur le chemin qui nous amène la vie et sont là pour notre propre bien. C'est pour ça que le psalmiste dit au psaume 119, « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole, enseigne-moi tes statuts. » La loi de Dieu amène la vie à ceux qui sont accablés. C'est comme les règles d'un parent. Quand elle était plus jeune, Annalise, qui est notre fille aînée, elle avait une intolérance aux protéines qui se trouvent dans le lait. Et elle était obligée de prendre un complément de calcium en comprimé après chaque repas, peu importe si c'était agréable ou pas. Et apparemment, ce qu'elle nous a fait comprendre par ses objections, c'était que ce n'était pas du tout agréable. Mais c'était la règle quand même chez nous. Et c'était la règle, non pas parce que nous voulons donner encore de l'argent à la pharmacie, ni parce que nous aimons ordonner notre fille à faire n'importe quoi juste pour avoir un peu d'autorité, pour exercer notre autorité. C'était parce que c'était pour elle le seul moyen d'avoir une vie abondante au niveau physique. Une vie sans se casser le bras à chaque fois qu'elle tombe par terre. Et chaque parent, je pense, comprend ce genre de situation. Et pourtant, nous imaginons souvent que Dieu est différent, n'est-ce pas? Nous imaginons que le fait que Dieu est tout-puissant lui rend aussi capricieux. Capricieux, comme s'il s'agit sans raison. Mais Dieu a toujours une raison. Ses règles ont toujours un but. Et ce but, l'explication pour la loi de Dieu, c'est son caractère. Parce que son caractère est amour. Il aime son peuple. Sa loi est là parce qu'il nous aime. Et bien sûr, on ne peut pas toujours comprendre la raison. Et il ne faut jamais tomber dans le piège d'imaginer que nous avons la liberté d'ignorer un commandement de Dieu simplement parce que nous ne le comprenons pas. Mes enfants, elles savent que même si elles ne comprennent pas, il faut obéir. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Mais il ne faut pas imaginer non plus que l'éternel Dieu ressemble à un Dieu païen, un Dieu qui donne des règles aux êtres humains simplement pour s'amuser. C'est une idée païenne. Il ne faut pas imaginer notre comme ça. Le but de la loi de Dieu est d'apporter la vie d'abord aux individus et puis aussi à notre communauté, une famille, une église, une ville. Une nation sera jamais en bonne santé si ses membres refusent la loi de Dieu qui apporte la vie. Mais si nous décidons par contre d'obéir, de vivre selon ses principes, alors nous serons vraiment, véritablement heureux. Bénis, c'est le terme biblique. Nous serons bénis. Bénis sont ceux qui vivent selon la loi du Christ, sous l'autorité du roi Jésus. Non pas parce que Dieu refuse de bénir les autres, mais parce que sa loi amène la vie. Le mensonge, la haine, la débauche, ces choses n'amènent que le malheur. Elles nous détruisent de l'intérieur, comme quelqu'un qui est malade et qui refuse ce qui est bon, qui refuse ses médicaments. Mais la vérité, l'amour, la poursuite de ce qui est bon, ces choses amènent une vie abondante, la bénédiction. C'est ce que Dieu a offert aux Israélites en Deutéronome, et c'est exactement ce que Jésus nous offre, toujours dans ce sermon sur la montagne. Commençons par les béatitudes. Bénis sont ceux qui cherchent la paix. Bénis sont ceux qui voient le monde pour ce qu'il est et qui pleurent pour lui. Bénis sont ceux qui trouvent un meilleur chemin. Et plus loin, dans le reste du sermon, on trouve une grande liste de choses qui, si on les met en pratique, ces choses apportent la vie. L'amour pour nos ennemis, par exemple. La fidélité, l'honnêteté. Et même quand ces choses nous font souffrir dans cette vie, c'est une souffrance qui fait vivre notre esprit. 2 Corinthiens 4, Paul dit, « Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. » C'est une vie abondante que nous avons en suivant Jésus. La loi du Créateur existe pour donner la vie à ses créatures. Tout au long de l'histoire, cela n'a pas changé. Et Jésus est en train d'assurer ses disciples que ça ne changera jamais. Donc si toi, si tu fuis le règne de Dieu en ce moment, et pose-toi bien la question, est-ce que je fuis le règne de Dieu dans ma vie en ce moment? Si tu refuses l'obéissance à sa volonté, il faut savoir que tu cours vers le malheur. Mais si tu te détournes de cette voie, c'est la vie abondante de Jésus qui t'attend. La loi du Christ n'est pas un fardeau, c'est le chemin vers la bénédiction. C'est le chemin vers une vie abondante. Non pas une vie sans souffrance, je n'ai pas dit ça, mais une vie abondante. Alors, la loi apporte la vie. Et la loi proclame la vie. Pour certains d'entre vous, ceux qui ont lu le livre de Lévitique, par exemple, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah oui, ok, je suis d'accord que les lois de l'Ancien Testament étaient pour le bien du peuple et que la loi du Christ existe aussi pour mon bien, pour apporter la vie. Mais en même temps, beaucoup des lois des Israélites semblent trop bizarres pour avoir un but. La règle qui dit, par exemple, qu'ils ne devaient pas mélanger du lait et de la viande, cela veut dire qu'ils n'avaient pas de pizza. Vous en rendez compte? Et c'est difficile d'imaginer une raison pour cela. Ou, par exemple, les règles qui exigent des vêtements particuliers ou des barbes. Comment comprendre un Dieu qui demande ces choses apparemment bizarres? Si nous croyons que les lois de Dieu ne sont pas arbitraires, quelles sont ou quelles étaient les raisons pour les règles comme ça? Apportaient-elles la vie aux Israélites? Peut-être pas. Mais n'oublions pas le deuxième but de la loi. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Si le premier but de la loi est donner la vie, le deuxième est d'offrir cette vie aux nations. C'est de témoigner de la bonté de Dieu. Et ça veut dire qu'il faut être visible. Il faut être visiblement différent des autres. C'est pour ça que Jésus dit après les béatitudes, dans les versets 13 à 16, que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ce n'est pas une nouvelle idée inventée par Jésus. C'était comme ça depuis le début. Le peuple de Dieu est censé vivre d'une manière qui révèle Dieu au monde et qui témoigne de qui il est, d'être différent, d'être visible et être franchement un peu bizarre aux yeux du monde. Certes, beaucoup des lois qui témoignent de la bonté de Dieu sont les mêmes que ceux qui apportent la vie. Ne pas voler, par exemple, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton voisin, et ça témoigne du fait que Jésus, que Dieu est un Dieu de justice. Pardonner, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'autre, et ça fait voir au monde que tu suis un Dieu qui pardonne. C'est logique. Mais parfois, pour Dieu, c'est simplement le fait d'être visible qui compte. Pour le peuple d'Israël, c'était important d'être séparé des nations. Souvent, c'était le but de la loi. Les franges sur les vêtements, par exemple. Les franges montraient simplement et clairement que ce peuple était appelé à être différent. Les franges n'étaient pas à la mode à l'époque. C'était tout simplement une façon d'avoir une apparence différente de tout autre peuple, pour être facilement identifié comme le peuple de Dieu. Est-ce que la ville de Bussy peut facilement nous identifier comme le peuple de Dieu? C'est ça la question. Jésus veut que ses disciples soient différents du monde, visibles. Et parfois, quand on est différent d'une manière visible, il faut savoir que ça va faire un scandale. Quand Jésus dit, par exemple, dans le serment sur la montagne, il dit d'aller le deuxième mille si quelqu'un te demande d'en aller un. C'est à la fin du chapitre 5 où Jésus dit cette phrase célèbre. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais en deux avec lui. Mais vous savez exactement de quoi Jésus parle? Il ne s'agit pas ici simplement de quelqu'un qui a besoin d'un peu d'aide. Parce qu'à l'époque, les soldats romains avaient le droit légal de forcer les juifs à porter leurs affaires pour une distance jusqu'à un mille. C'était la loi romaine. Et Jésus parle donc littéralement d'être forcé de marcher un mille avec un soldat ennemi. C'était profondément insultant pour un juif, parce que ces Romains étaient des envahisseurs. Ils avaient saisi le pays et ils l'avaient souillé. Et en plus, ils n'avaient pas besoin de l'aide d'un juif. Aider les Romains, aller un deuxième mille, ce n'était pas un acte de charité. Comme si ton voisin te demandait un peu d'aide un samedi après-midi et tu restais jusqu'à la fin de la soirée. Ce n'est pas ça. C'était une chose vraiment dure et injuste. Parce qu'atteindre la fin de cette marche forcée et puis offrir d'en faire une deuxième, c'est fou. Et c'était humiliant, d'ailleurs. Un juif qui faisait ce que Jésus décrit ici, il aurait été humilié, non seulement devant les Romains, mais devant les autres juifs aussi. Parce qu'aider l'ennemi comme ça, volontairement, c'était scandaleux ce que Jésus proposait. C'était trahison même. Et ses compatriotes l'auraient su, bien sûr. Si quelqu'un allait un deuxième mille avec un soldat romain, tout le monde aurait parlé de l'esclandre que ce juif fou avait fait sur la route avec ce soldat. Et c'est justement là l'idée. Vivre selon la loi de Dieu, ça devrait nous rendre visibles et parfois ça va faire scandale. Toute la loi, Jésus dit, toute la loi de Dieu se résume en deux choses. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Vous le connaissez. Tout ce qu'il dit revient à ça. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est un amour scandaleux. Un amour qui apporte la vie. Un amour qui n'a pas peur de sembler ridicule. Qui n'a pas peur de souffrir. Qui n'a pas peur de faire tout ce qu'il faut pour avoir une vie abondante et pour offrir cette vie aux autres. C'est ça l'amour dont Jésus parle dans sa loi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, alors? Nous ne sommes pas la nation d'Israël et nous ne sommes pas les disciples de Jésus dans un contexte où quelqu'un va nous demander de marcher à mille avec les affaires d'un soldat. Mais nous suivons le même Dieu que les Israélites. Et nous sommes des disciples de Jésus. Il parlait à nous. Il parlait à son église là sur la montagne. Et donc, que disait-il? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il nous donne sa loi pour notre bien et pour le bien du monde, pour proclamer sa présence. Il disait que le monde nous regarde. Et quand il nous regarde, il devrait voir un peuple qui se distingue de tout autre. Ceux qui nous observent devraient voir une communauté si extraordinaire qu'ils sont attirés à découvrir ce qui pourrait produire cela. Qu'est-ce qui nous arriverait si dans chaque aspect de notre vie, à chaque instant où il faut prendre une décision, si nous nous posions la question, est-ce que cette action donne la vie? Et est-ce que cette action proclame la vie à ceux qui m'entourent? Qu'est-ce qui nous arriverait si nous nous posons cette question à chaque instant? Alors, pour terminer, je vais vous donner un exemple négatif tiré de ma propre vie. Il s'agit d'une fois où j'aurais dû faire un scandale. Je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce qui apporterait la vie dans cette situation? J'aurais dû faire un scandale. J'aurais dû agir dans une manière qui aurait dit quelque chose. Et je ne l'ai pas fait. C'était aux États-Unis et Sheila et Annalise et moi, nous faisions des courses dans un magasin grande surface, un peu comme Carrefour. Et il se trouve que ce magasin-là emploie de nombreuses de personnes handicapées, surtout des personnes souffrant de handicaps mentaux. Et souvent, le magasin donne à ces gens la responsabilité d'organiser les chariots et de saluer les clients à l'entrée, ce qu'ils font beaucoup mieux que je ferais, c'est sûr. Et alors Sheila et Annalise et moi venaient d'entrer et nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'un chariot. Et alors donc je suis retourné à l'entrée pour chercher un. Et près des chariots, j'ai commencé à entendre un homme qui criait sur quelqu'un. « T'es idiote !» il a crié. Je ne sais même pas pourquoi les gens comme toi ont un boulot comme ça. Et tout de suite, j'ai vu la personne sur qui il criait, et c'était la femme handicapée. J'étais horrifié. Je suis horrifié juste de raconter l'histoire. C'était horrible. Et cette femme, elle ne pouvait rien dire. Elle se tenait devant lui sans bouger. Et moi, je m'en suis détourné. J'ai poussé le chariot vers ma famille. Nous avons fait nos courses et je me sentais malade le reste de la journée. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne voulais pas faire un scandale. J'avais ma famille avec moi. Ma fille était là. Je ne voulais pas m'impliquer dans la situation. Mais qu'est-ce que cela aurait-il montré à ma fille, si elle avait vu son papa prendre la part de quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre elle-même? Qu'est-ce qu'elle aurait pu apprendre si j'aurais eu l'occasion de lui dire après que ce que j'avais fait, j'ai fait parce que c'est ce genre de choses que Jésus aurait fait? Que nous suivons un Dieu qui apporte la lumière et la justice et la vie. Et qu'est-ce que cela aurait-il montré à la dame? Je ne sais pas si je lui aurais dit sur le coup que Jésus l'aime. Mais peut-être c'est exactement ce que j'aurais dû faire. Parce que c'est Jésus qui la connaît. C'est Jésus qui l'aime vraiment. Si seulement quelqu'un le lui aurait dit. J'espère qu'elle savait. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas dit. Je n'ai rien fait. Je ne voulais pas faire un scandale. Qu'est-ce que tu évites dans ta vie parce que tu ne veux pas faire un scandale? Qu'est-ce que Jésus demande de toi et tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas faire un scandale? Le but de la loi de Moïse était d'apporter la vie et de la proclamer aux nations. Le but de la loi du Christ est pareil. Ceux qui la suivent seront heureux, bénis. Et en la suivant, ils seront la lumière dans un monde qui est vraiment sombre. Ce monde est sombre. Es-tu une lumière? Ce sera une lumière scandaleuse que le monde ne comprend pas, mais qui le transforme tout de même. C'est ça le règne de Jésus. Nous parlons ce mois-ci du roi, du règne de ce roi, Jésus, le bon roi. Et Jésus dit, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Que nous ayons le courage de faire un scandale en suivant ce roi cette semaine.